Salut à tous et bienvenue sur Radio Canu. On n'arrête pas le prog, fait sa rentrée pour la première émission de 2020. Bienvenue à tous, on n'arrête pas le prog, c'est l'émission sur le rock progressif sur Radio Canu. On est deux à présenter cette émission, moi c'est Clément, à mes côtés François.
Allô.
Bienvenue à tous, bonne année, meilleurs voeux pour 2020. Voilà, une décennie se clôt, la décennie des années 2010 et une nouvelle décennie commence. Et donc voilà, il y a eu deux semaines où on n'a pas été là. Et pour marquer le coup un peu de cette fin des années 2010, on a décidé de consacrer tout le mois de janvier en fait à une sorte de rétrospective de cette décennie d'activité en rock progressif. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les grands albums, les grands artistes, les nouveautés? Qu'est-ce qui s'est passé du côté des vieux groupes? Et voilà, évidemment, ça sera très partial et très subjectif, mais ça, c'est un peu ce qui nous a marqué voilà, dans les années 2010 en rock progressif. Et 4 émissions, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est pas tant que ça avec le prog, puisqu'on va vous passer des morceaux souvent assez longs. Et voilà, on vous passera un peu plus d'extraits ce coup-ci d'albums, parce que histoire de parler de le plus de choses possible. Et pour cette première émission, donc, premier volet de la rétrospective des années 2010. Ce serait une émission donc consacrée aux anciens, aux grands anciens du prog. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette décennie-là? Parce que 2019, ça a marqué les 50 ans de In the Court of the Crimson King, paru en 1969. Et ça équivaut un petit peu aux 50 ans du prog, puisqu'on associe la sortie de cet album-là à la naissance véritable du rock progressif. Avant, il y a eu du rock psyché, il y a eu les Beatles, il y a eu des choses qui ont posé les bases de ce que va devenir le rock progressif. Mais vraiment, c'est l'album de King Crimson, le premier album, qui est la naissance officielle du prog. Et c'est aussi d'ailleurs les 50 ans de Magma, si je me trompe pas non plus, en 2019.
Oui, tout à fait.
Voilà, le représentant français des musiques progressives le plus connu avec Ange, hein, dans un registre totalement différent, évidemment. Et qui continue d'ailleurs, toujours, et on en parlera à la fin de l'émission d'ailleurs. Et donc voilà, alors que le courant progressif entame sa 6e décennie d'existence, il arrive l'âge pour les musiciens de la première génération de tirer leur révérence petit à petit. Et beaucoup de grands musiciens qui nous ont quittés dans les années 2010, on va en parler, ça sera un petit passage en revue aujourd'hui. Ça sera pas, on va essayer de rendre ça pas trop triste, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Et on va commencer en fait par... pour ces grands groupes des années 70, par les grands noms, les vraiment les plus grands noms, ce que les Anglais appellent The Big Five, les grands noms du prog. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, en commençant par ceux qui n'ont pas fait grand-chose, Genesis, en l'occurrence, n'a pas sorti d'album. Hein. Il y a eu une tournée d'adieu en 2007, et rien qui ne s'est passé depuis, à part des compilations et des documentaires. Sauf l'ami Steve Hackett, dans la famille Genesis, donc, qui était le guitariste de la grande époque, qui lui a continué une carrière solo très, très remplie avec des albums de compos originales qui sortent régulièrement, qui sont assez inégaux. On en parle à chaque fois que ça sort, c'est pas inoubliable en général, même si c'est assez prog dans l'esprit. Mais surtout Steve Hackett, il a marqué la décennie parce qu'il a relancé le projet de Genesis Revisited avec beaucoup de succès. Ça a vraiment fait redécoller sa carrière, et depuis il fait des tournées depuis 2012, il fait des tournées mondiales à guichets fermés un peu partout. Et on a eu la chance de le voir l'été dernier avec François. Et bon, c'était vachement chouette. C'est vraiment...
Donc avec un répertoire des vieux albums de Genesis,
voilà.
Et une tournée à chaque fois qui cible un album.
Voilà, il fait ça. C'était Sailing récemment. Sailing England by the Pound. Et là, il va faire Say Guns Out l'année prochaine, le mythique album live de 77. Et voilà, c'est super bien joué avec des musiciens un peu plus jeunes en général. C'est moins fidèle que Musical Box, le tribute à Genesis, mais c'est aussi intéressant parce que c'est réarrangé, notamment avec des parties de sax. Donc voilà, si ça repasse de toute façon on vous le dira, si ça repasse dans le coin, évidemment. Et voilà, c'est seul membre de Genesis à continuer à perpétuer l'héritage prog du groupe, donc c'est vraiment à noter. Yes, ensuite, Yes, ils ont fait 2 albums dans les années 2010. Un honorable et l'autre plutôt très oubliable. Et surtout, du côté de Yes, il y a eu des disparitions. Il y a eu Peter Banks, le premier guitariste, qui est mort au tout début des années 2010, et surtout Chris Squire. Donc Chris Squire, voilà, le bassiste fondateur du groupe, le seul à avoir joué sur tous les albums. Voilà, ça c'était quand même une grande perte pour le prog dans ces années-là. Et ça a après causé un peu une scission dans le groupe, puisqu'il y a eu Steve-O qui a fait un Yes officiel, et John Anderson et Eric Wakeman qui ont fait ARW à côté avec Trevor Rabin. Voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, ça fait beaucoup de noms. Mais voilà, l'histoire de Yes a toujours été très compliquée. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Mais voilà, Yes, donc pas inoubliable hein, au niveau créatif.
Et donc, en
créatif.
Dernière nouvelle, ils font une tournée en ciblant l'album Relayer.
Ah oui, qui va passer par Paris en France.
Qui est leur album le plus audacieux, le plus prog, donc qui date de 74. Mais après, bon, à voir le.
Ça laisse un peu craindre, vu l'âge avancé des musiciens.
Quelle interprétation ils vont faire
Ouais. Il y aura des vidéos sûrement qui nous permettront de voir ça. Ce sera peut-être un peu cruel, mais on peut espérer le meilleur. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont bosser comme des fous dessus. Et ensuite, le troisième des grands de Big Five, c'est Emerson, Lake & Palmer, qui lui a fait son dernier concert en 2010, donc au tout début des années 2010, avec un concert au festival High Voltage. Donc c'était un concert de reformation du trio. C'était pas extraordinaire, hein, voilà. L'âge des musiciens, surtout pour Emerson, s'est fait bien sentir.
Oui, et puis Lake aussi, c'était pas terrible.
Et Lake aussi, oui. Il n'y a que Carl Palmer qui arrive à un peu maintenir la forme et qui d'ailleurs continue à faire des tributs à VLP, à tourner avec
il
des formations.
Il maintient la vie aussi.
Lui, ouais.
Et c'est le seul à pas être mort.
C'est le seul à pas être mort, c'est ce que j'allais dire. Puisque Keith Emerson et Greg Lake sont morts la même année. Donc ça, c'était quand même aussi c'était aussi un coup dur, surtout Keith Emerson parce que. Il s'est suicidé, donc il y a un côté très triste dans l'histoire. Il s'est suicidé notamment à cause d'une dépression chronique par rapport à son incapacité à retrouver son niveau d'avant au clavier, donc voilà, assez triste. Donc le pire, on n'en parlera plus malheureusement. Et on continue avec Pink Floyd du coup. Pink Floyd, voilà, qui est peut-être le plus connu de tous les groupes de prog, qui a un succès mondial, inutile de vous décrire les détails. Pink Floyd a sorti un album dans les années 2010, c'est Endless River en 2014. Alors c'est plus ou moins un vrai album, c'est des chutes de l'album Division Bell, qui était le dernier album avec David Gilmour et Rick Wright. En fait, pendant les sessions de cet album-là, Division Bell, il y a eu beaucoup de démos, beaucoup de matériel qui a été enregistré. Et David Gilmour plus Nick Mason, le batteur, et j'ai oublié le nom d'une troisième personne qui les a aidés, ont remonté toutes ces maquettes, toutes ces prises, ont fait des rajouts de guitare, de clavier, etc. Pour donner naissance à cet album-là, donc qui est un peu artificiel, c'est un peu créature de Frankenstein, celui qui a carrément même une partie d'orgue de Rick Wright de 1968, Rick Wright, le clavieriste, qui est mort en 2008. Et donc c'est le premier morceau qu'on va s'écouter aujourd'hui, donc un extrait de Endless River, qui est un album assez artificiel, qui fait plus New Age que prog. Mais voilà, c'était aussi l'occasion de... C'est un album qui fait un peu... adieu, un peu symbolique de la fin d'une époque, au-delà de ses qualités musicales. La fin de Pink Floyd, c'est le dernier album officiel. Et donc un petit peu aussi la fin de l'âge d'or, des vieux groupes de l'âge d'or du prog. Donc on écoute le morceau That's What We Do de Pink Floyd. Voilà, c'était Pink Floyd. Un extrait donc The End, de The Endless River, le dernier album, David Gilmour l'a dit, c'est le dernier album des Pink Floyd, sorti en 2014, donc issu des chutes de Division Bell. Un album, voilà, c'est loin de se classer parmi les grandes réussites de Pink Floyd, mais c'est surtout le côté nostalgique qui marche à plein de tubes pour cet album-là. Il y a quand même des bonnes idées. C'est très agréable, ça passe bien en fond. Mais voilà, c'était vraiment une... c'est plutôt... Non, c'est pas. C'est
une sorte ça de passe bien en fond.
Ça passe bien, non, mais ça, il faut avouer. Mais voilà, c'est le dernier album de Pink Floyd, quand même. Voilà, c'est un des plus grands groupes des années 70. Roger Waters continue de son côté à faire des choses assez intéressantes. Son dernier album en date était vraiment bien. Et en tournée, voilà, il continue à reprendre beaucoup de morceaux de Floyd, notamment des morceaux d'Animals. C'est seul à faire ça. Et donc, voilà. Et c'était pour Pink Floyd. Et on finit par le dernier des grands groupes de prog du Big Five des 70s, King Crimson. Et là, je vais laisser François s'exprimer.
Ouais, enfin, on finit pas avec...
on finit, je veux dire, sur cette série-là, des grands groupes.
Ouais, des groupes anglais.
Voilà.
Ouais. Donc, King Crimson, c'est un cas intéressant parce qu'en fait, le groupe existe toujours, enfin, le groupe a toujours existé de façon sporadique. Il a existé pendant une période, puis s'arrête, puis repart, puis s'arrête, puis s'arrête, puis repart. Et donc il y a eu quatre périodes en fait qui correspondent aux décennies, donc 70, 80, 90 et 2000, on va dire en gros.
En gros, ouais.
Et la dernière décennie, Fripp a fait comme d'hab, il s'est dit tiens, je remonte le groupe et j'essaye de faire un truc vraiment intéressant, original et tout. Sauf que là, il a opté pour faire surtout des concerts et une relecture en fait des grands classiques du groupe et plus précisément des années 70. Parce que en plus, il n'y avait plus, donc il a remonté le groupe sans Adrien Belew qui lui était donc une figure du groupe qui a vraiment marqué les années 80, 90, 2000 aussi, par sa présence. Et donc, en remontant le groupe sans lui, en fait, c'était difficile de jouer des morceaux du groupe avec lui à la base, même si en fait c'est plus compliqué parce qu'ils en font quand même maintenant. Voilà, je sais pas si ça me fait bien comprendre, mais toujours est-il que donc Fripp a remonté le groupe en 2013 ou 14 par là pour faire plein de concerts partout qui marchent très bien d'ailleurs, hein, c'est toujours bien complet et toujours dans des très grandes salles. Et en fait, il s'est dit pour faire une bonne relecture originale du répertoire, donc j'embauche trois batteurs. Et donc c'est l'originalité de cette formule où il y a trois batteurs qui sont en plus devant la scène, sachant donc que derrière il y a quatre musiciens, enfin qui sont cinq maintenant, donc enfin non, qui sont de nouveau quatre.
Alors, on va vous embrouiller aujourd'hui. Préparez-vous.
Ah, si je rentre dans le détail, c'est compliqué en fait. Mais donc le en fait depuis 2013, le groupe ne fait que des concerts et parfois, on entend dans le répertoire donc des nouveaux morceaux totalement inédits, mais le groupe ne sort pas d'album. En fait, c'est un choix comme un autre. Hein. Mais en tout cas, ça permet donc à nous de voir le groupe en concert, de voir le groupe jouer des morceaux dont certains n'avaient jamais été joués sur scène du tout, notamment des morceaux de Red, Fallen Angel ou One More End Nightmare. Oui, pour être précis, donc dans cette formule, ce qui est intéressant, si on rentre dans le détail, il y a Mel Collins au sax, sax flûte, qui était donc le saxophoniste du groupe dans 70-71, 72, par là, sur les deux albums Lizard et Highland. Et puis il y a Tony Iovine, donc le fameux bassiste qui est rentré dans le groupe dans les années 80, puis qui n'était plus là dans les années 2000, et donc là qui revient. Et il y a, outre Fripp, donc bien sûr, Jaco Jaksic, donc qui fait le bon job du il est chanteur-guitariste, et donc c'est un très bon guitariste, voilà. Et au niveau du chant, en fait, il fait le job de chanter ce que chantait à l'époque, donc autant Greg Lake que John Wetton, ou voire aussi donc un peu d'Adrian Belew. Et il fait très bien ce job. Voilà, c'est vraiment la bonne personne, la personne qu'il fallait. Sachant que c'est un musicien qui avait déjà joué dans un groupe de reprises de Crimson auparavant. Voilà. Donc c'est ce choix-là qu'a fait Robert Fripp avec King Crimson. Peut-être qu'il y aura un album studio bientôt. Peut-être. En tout cas, les nouveaux morceaux, de toute façon, on peut les entendre dans des lives, parce qu'évidemment, ils ne se gênent pas pour sortir des lives.
En pagaille.
En gros, depuis 2013, il doit y en avoir 5 ou 6 des triples lives, coffrets, DVD, etc. Quoi. Mmh. Et donc là, on va vous passer, pour illustrer tout ça, deux morceaux justement inédits. Le morceau Meltdown et celui du court morceau Radical Action, tout, partout. Et donc extrait d'un live à Mexico de 2017 et qui s'appelle aussi Meltdown, donc Meltdown Live in Mexico. En sachant que sur cette tournée-là, il y avait en plus Ron. Comment il s'appelle le batteur qui est devenu clavieriste, Ron Rifkin,
Bill Rifkin.
Bill Rifkin. Donc, enfin bon, voilà, je rentre pas dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte des parties de clavier. En fait, il fait le clavier en permanence, alors qu'il n'y a jamais eu de clavieriste permanent dans Crimson. Et donc, notamment des parties de Mellotron sur les thèmes de Lizard et tout ça, quoi. Voilà, mais donc là c'est parti donc pour le morceau Meltdown suivi de Radical Action 2. Ben voilà, c'est fini. Ça s'est fait fini bizarrement, mais donc c'était le morceau Meltdown suivi de Radical Action 2, donc deux morceaux totalement inédits, donc qui peut-être figureront sur un album studio prochain de King Crimson. Et ils étaient extraits donc d'un live Meltdown Live in Mexico, dont je recommande surtout le DVD. En fait, c'est mieux avec l'image.
Voilà. Voilà, donc ça c'était le petit passage en revue de vraiment des plus grands noms. Il y a eu aussi dans les années 70 dans des groupes qui ont connu un peu moins de succès, qui ont eu des carrières plus compliquées, et certains n'ont pas repris. Je pense par exemple à Gentle Giant qui s'est jamais reformé. Et par contre, Vandergraaf Generator, qui fait partie un peu, c'est pas la seconde division du prog, parce qu'au niveau qualitatif, c'est au niveau des plus grands, mais c'est, voilà, c'est beaucoup moins connu, beaucoup moins populaire. Mais Vandergraaf Generator, c'est un peu le seul de tous les groupes des années 70 à peut-être, un peu, peut-être, voilà, ça, chacun a sa vérité, avoir gardé toute sa singularité, et puis d'avoir continué à proposer des œuvres proches de la qualité de leurs plus grands albums des années 70. Il y a eu trois albums pour Vandergraaf dans la décennie 2010. Le dernier, c'était Do Not Disturb en 2016. Et on en avait parlé dans l'émission, c'est un très bon album. C'est le meilleur des trois qui sont sortis dans cette décennie. C'est sûrement le meilleur de leur reformation, je trouve, depuis 2003, si je ne me trompe pas. Et donc Vandergraaf Generator, c'est mené par Peter Hamill, leader du groupe, chanteur. La particularité de ce groupe, c'est qu'il n'y a pas de guitare au départ, mais Peter Hamill en joue pas mal maintenant, puisque le groupe était en quatuor. Le groupe s'est reformé en quatuor avec David Jackson au sax, pardon. J'ai vu le Seigneur des Anneaux il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Et avec donc David Jackson qui n'est plus dans le groupe. Donc maintenant, Vandergraaf, pas maintenant, le groupe existe plus ou moins officiellement, est un trio, donc clavier, Peter Hamill chant, guitare, un peu piano et batterie. Et donc on s'écoute un extrait de ce très bon album qui s'appelle Do Not Disturb, et le morceau s'appelle Aloft. C'est parti pour Vandergraaf Generator.
Certain to come down. steady measures, not to take the whole thing in the round. Keep on talking, for that's all that's keeping you aloft. It was awkward, holding in your breath before the off. Now you travel, though you're not so eager to arrive. On the journey, what respect you earn is token. Faith in progress, goals unspoken, and that's all that's keeping you alive. And you know it's not the going, it's the getting there. Remember where you were heading when your starting home was eloquence, but now it's all hot air.
C'était Vandergraaf Generator, un extrait donc de l'album Do Not Disturb de 2016, le morceau Aloft. Vandergraaf, voilà, qui fait partie, qui est peut-être le seul groupe des années 70 à proposer des œuvres vraiment de grande qualité, toujours. C'était peut-être le dernier album du groupe, parce qu'il y a pas mal d'allusions dans l'album qui laissent penser ça. On enchaîne assez vite, puisque le temps presse, on a beaucoup de choses à dire sur ces vieux groupes, et on n'a qu'une heure. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur Radio Canus, et on n'arrête pas le prog. Et donc c'est une émission spéciale sur la décennie 2010 et sur les grands groupes des années 70, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années 2010. Et donc dans les mentions honorables, je voulais citer aussi The Enid, qui a fait, malgré un line-up très très instable, a sorti quelques très bons trucs dans les années 2010 aussi, on n'a pas le temps d'en passer. On fait un petit crochet maintenant par l'école de Canterbury, donc qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un sous-genre du rock progressif, qui est, pour résumer grossièrement, inclut beaucoup plus de jazz que dans le prog normal, des influences jazz, mais aussi un côté pop parfois, enfin c'est vraiment le mélange de pop, d'humour un peu absurde, anglais à la Monty Python parfois, et de trucs jazz parfois très complexes et d'impro aussi, voilà, c'est assez unique. Et plus connu, c'est Caravan, Soft Machine ou Hatfield and the North. Et donc du côté de l'école de Canterbury, il y a eu aussi quelques disparitions. Il y a eu Kevin Ayers, donc le premier guitariste de Soft, ouais.
Enfin, premier
bassiste, bassiste, autant pour moi.
Qui est mort, le premier guitariste, c'était David Allen,
qui est mort aussi, du coup, David Allen. Et donc, David Allen qui a fondé Gong, hein, voilà, le fondateur de Gong, évidemment, qui est décédé. Sa compagne, Jelly Smith, peu de temps après, qui l'a suivi aussi. Et je parle de sa compagne parce qu'elle était dans Gong aussi, hein, évidemment. Il y a eu Richard Coughlan aussi, le batteur de Caravan, qui nous a quittés. Et Phil Miller, peut-être le fameux guitariste de l'école de Canterbury, avec, qui a joué dans Hatfield, National Health, et dans quoi d'autre,
Matching Mall.
Matching Mall aussi, voilà, c'est ça. Et puis on peut citer aussi Alan Osworth, qui a quand même pas mal participé à certains trucs de l'école de Canterbury, Gong ou Soft Machine, bien sûr. Voilà. Et pour l'école de Canterbury, il y a eu les deux des plus grands groupes de l'époque qui ont continué et qui ont fait des choses assez sympas. On va commencer par Soft Machine, n'est-ce pas, François?
Oui, alors Soft Machine, donc on va vous passer quand même un petit morceau de leur dernier album en date. Soft Machine, c'est un peu un tribute band qui s'est fait appeler pendant longtemps Soft Machine Legacy. En fait, et qui finalement est revenu à Soft Machine tout court, mais il n'y a plus du tout d'anciens membres du groupe des tout débuts, puisque le membre le plus vieux membre du groupe actuel, donc John Marshall, le batteur, est entré dans le groupe seulement à partir du cinquième album, en remplacement donc de Robert Royatt, qui lui a depuis longtemps lâché l'affaire. Il n'est pas mort, mais il a arrêté de faire de la musique. Comment résumer ça?
C'est très compliqué.
Le parcours de Soft Machine.
Il faut résumer justement.
Soft Machine Legacy, en fait, à la base, au tout début, c'était dans les années 2000, des anciens membres du groupe, en fait, qui remontaient un groupe pour jouer les morceaux de l'époque, éventuellement enregistrer un live, et puis peut-être des albums studio. Mais rien de vraiment marquant, en fait. Il y a eu, au début de Soft Machine Legacy, c'était Elton Dean, le saxophoniste, et Hugh Hopper qui avaient monté le truc, avec John Marshall et peut-être... c'était qui? Le pianiste.
C'est toi l'expert.
Sophia Domancic, peut-être, ou...
C'est possible.
Ouais. J'avoue que j'ai pas trop creusé ces diverses incarnations, en fait. Mais donc Elton Dean et Hugh Hopper sont morts, en fait, donc il y a une dizaine d'années. Robert Royatt, donc, comme je l'ai dit, a fait plus de musique depuis longtemps. Et Mike Rutledge, le tout premier clavieriste historique du groupe, ne fait plus de musique aussi depuis encore plus longtemps, puisqu'il a carrément arrêté complètement autour de début 80, c'est ça? Et donc voilà, Soft Machine, c'est une sorte de... Aujourd'hui, c'est plus un tribute band, mais bon, qui sort quand même des albums studio avec des nouveaux morceaux. Et aujourd'hui, donc, le groupe est constitué... De John Marshall à la batterie, Roy Babington à la basse, donc qui jouait sur les albums c'est Six Seven
sur Six il y avait encore Hugh Hopper.
Sur Six il y avait Hugh Hopper,
ah oui, je crois bien, hein. je crois que c'est à partir de Seven qui est arrivé. Et voilà, appelez-nous si vous le savez. Non mais on vérifiera, ouais, puis ouais. Celui qui perd aura un gage. Hein.
Oui, voilà. Enfin bon, c'est pas super important, mais donc Roy Badminton a été bassiste de Soft Machine, mais dans la période creuse du groupe, en fait, qui était moins créative à partir de l'album.
C'est quand même des bons albums.
Oui, c'est des bons albums. Après, tout est relatif, mais ils sont quand même moins marquants que les premiers albums du groupe, les quatre premiers.
Oui,
en tout cas. C'est difficile de rentrer dans le détail parce qu'il faudrait faire tout un historique de Soft Machine et pour ceux qui ne connaissent pas.
Et du coup, ce dernier album, qu'est-ce qu'il vaut ?
Donc, on va passer tout de suite sur le dernier album parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, pour finir avec le line-up, John Marshall à la batterie, Roy Badminton à la basse, Theo Travis au sax. À noter que Theo Travis a failli faire partie de King Crimson aussi, d'ailleurs. Et John Etheridge à la guitare, qui, lui, a remplacé à l'époque Alan Ellsworth dans le groupe pour l'album Soft.
Tout à fait.
Soft, qui date de la fin des années 70, toute fin. Et qui a marqué un peu un retour, c'est un album plutôt pas trop mal dans le genre, mais très, très connoté jazz fusion. Il n'y a plus du tout l'originalité qu'il y avait au début. Et donc finalement, on se retrouve avec un peu cet état d'esprit-là, avec cet album donc, de 2018 qui s'appelle Hidden Details. Et donc un peu du jazz rock, les morceaux un peu construits tous pareils. On est loin d'une musique vraiment novatrice comme il y a pu y avoir dans Soft Machine au tout début, mais ça reste quand même de la bonne musique dans le genre, en sachant aussi que bon, John Marshall est quand même bien vieux, mais il assure quand même un minimum, mais bon, on sent que c'est pas non plus un batteur de toute première jeunesse. Les solos de Theo Travis sont vraiment bien et font vraiment le sel, on va dire, de cet album. Donc bravo Theo Travis, en tout cas. Et donc cet album est quand même à recommander à ceux qui sont vraiment fans de Soft Machine et qui veulent vraiment tout connaître. Le morceau, c'est 14 Hour Dream, et donc extrait de l'album Hidden Details, donc de 2018. C'est parti pour Soft Machine.
Voilà, c'était... Ah, François.
Oui. Ah ben je... Non, c'est moi qui te présente.
Allez, te présente si tu veux.
Donc, c'était Submachine, le morceau 14 Hour Dream sur l'album Hidden Details, donc sorti en 2018.
Donc, plutôt.
Clem, on est pressé donc.
Plutôt honorable, mais pas génial, en gros. Hein, oui. C'est ça. Et voilà, École de Cantabrie, on voulait aussi vous passer un morceau de Gong, parce que Gong, c'est vachement intéressant ce qu'ils font maintenant. Il y a un truc vraiment particulier qui s'est passé. On en parlera du coup la semaine prochaine. Ce sera une annexe de cette émission-là pour l'émission de la semaine prochaine, parce que ça vaut vraiment le coup de vous en faire écouter. Et donc, on va finir par un extrait d'un album de Magma. C'est François qui va vous en parler tout de suite après. Et je voulais juste faire un dernier petit rappel de ceux qui nous ont quittés et qu'on n'a pas évoqué. C'est John Wetton qui est parti dans les années 2010. Donc John Wetton, voilà, bassiste de King Crimson, de UK, de Asia, voilà, mais quand même il faut en parler. Un des grands musiciens des années 70 avec une voix unique et puis voilà, un jeu de basse aussi avec un son bien particulier. Donc voilà, John Wetton, Edgar Froese, fondateur de Tangerine Dream, qui est mort aussi. George Duke, qui est plus dans le jazz mais qui a fait partie du groupe de Zappa pendant une bonne partie des années 70 et notamment sa période la plus prog sur notamment One Size Fits All. Il y a eu John Lord, le claviériste de Deep Purple, Michael Dunford, le compositeur principal de Renaissance, le membre principal de Renaissance, et puis en prog related, on va dire, qui ont des liens plus ou moins forts avec le prog, il y a eu la section rythmique de Cream qui est disparue, Jack Bruce puis Ginger Baker cette année, enfin l'année dernière du coup. Il y a eu George Martin, le producteur des Beatles, donc sans les Beatles, le prog aurait été complètement différent, c'est certain. Il y a eu John Iseman, le batteur de Colosseum, Mark Hollis de Talk Talk, évidemment, et David Bowie qui a sorti un magnifique album juste avant sa mort, Black Star, avec un morceau bien prog, le morceau titre, donc on en avait parlé. Voilà, donc les années 2010, c'était quand même pas mal de disparitions, mais il y en a encore pas mal qui tiennent la route. Et puis donc, les semaines suivantes, on va continuer ce rétrospectif des années 2010 en parlant des groupes plus récents et voilà, des groupes qui sont en évolution encore de nos jours. Et on finit sur Magma.
Oui, alors c'est encore très difficile de résumer.
Tu as merdier des 50 ans. Deux minutes, peut-être trois, allez.
Mais bon, en tout cas, on a vu Crimson et Magma donc au Nuit de Fourvière l'autre fois, en juillet. Et c'est vrai que les deux groupes fêtent leurs 50 ans, sont nés en 69. Et sont deux groupes aussi qui ont un leader... qui donc est toujours en activité, toujours là, et est le seul membre escapé de l'époque. Donc en l'occurrence pour Magma, donc c'est le batteur Christian Wander, qui est aussi compositeur. Et un peu comme King Crimson, le groupe se retrouve à être un peu un tribute band qui fait des relectures de ses grands classiques, mais c'est plus compliqué en fait parce que Wander à l'époque avait composé beaucoup de morceaux dans les années 70 et n'avait pas pu tous les enregistrer, donc il a profité des années 2000-2010 pour les enregistrer. Et ce qui fait qu'en fait certains nouveaux albums de Magma sont pas réellement nouveaux, mais bon là ça c'est encore un truc si on rentre dans le détail on n'a pas fini, sachant que le groupe a quand même Wander a quand même composé deux vrais nouveaux morceaux. Bah récemment il y a Zest qui est sorti, mais Zest justement c'est un morceau qu'il avait composé en 79, enfin il y a 40 ans plus tôt quoi. Mais il y a eu deux vrais morceaux, donc le morceau Felicitetos et le morceau Schlagtanz, qui ont tous les deux donné lieu à un album. Et Schlagtanz est clairement bien meilleur que Felicitetos, que je trouve pas un peu fadasse. Et donc c'est des morceaux qu'ils ont commencé à jouer en 2008-2009 par là, et qui ont été enregistrés courant 2010. Donc en l'occurrence Schlagtanz a été enregistré en 2015. Et en fait il s'agit d'un morceau de 23 minutes qui est assez assez dark dans le un côté très défoutourant, on va dire, pour ceux qui connaissent. Et donc en tout cas un morceau qui fait tout à fait honneur à Magma, tout simplement. Donc je vais vous passer en fait pour finir cette émission, malheureusement on peut pas passer le morceau en entier, un extrait donc de Schlagtanz, c'est plus ou moins la fin du morceau, pas exactement parce que la toute fin est pas très intéressante, et ça vous donnera une idée en tout cas de ce que Magma a fait au niveau créatif encore dans les années 2010. Donc un groupe qui existe toujours sur scène aussi, bien sûr, et avec des nouveaux membres qui viennent d'arriver. Je fais passer l'info aussi vite fait. Ouais, donc, pour ceux qui connaissent bien le groupe, Philippe Bussonnel, bassiste qui était là depuis 25 ans, a quitté le groupe et remplacé par le fils de Yannick Top qui était le bassiste des années 70. Enfin bon, c'est très compliqué. Ouais, mais en tout cas, le groupe existe toujours. Ils font un concert au Fil à Saint-Etienne en mars, je crois. Donc voilà, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Il y a toujours des surprises avec Magma, de toute façon, on sait pas trop ce qui va se passer, bonne ou mauvaise. Donc on va finir par cet extrait de Schlagtanz. Voilà, alors il peut y avoir un petit temps d'attente parce que j'ai un peu merdé avec mon lecteur.
Ah bah ça me laisse le temps de vous dire au revoir.
Voilà.
Voilà, donc on va finir en musique. Et bah voilà, c'est la fin de l'émission. Désolé, on est un peu dans le rush là, sur cette fin. On avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc c'était la première partie de la rétrospective sur les années 2010 de On n'arrête pas le prog. Le podcast de cette émission sera retransmis sur le blog de l'émission. Vous pourrez le télécharger ou l'écouter en ligne à partir de demain. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain à 17h-18h pour la suite, voilà, la suite de tout ce qui nous a plu dans les années 2010. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous laisse avec la suite des programmes sur Radio Canut et avant ça, un extrait du Schlagtanz de Magma. Salut à tous.
C'est parti.